Quand j'étais petite fille, je croyais en Dieu. Mon père m'emmenait à la messe tous les dimanches. Je suivais le catéchisme où l'on me parlait de son œuvre. Après cela, nous nous rassemblions dans le jardin de l'église pour déjeuner à la bonne franquette de poulet rôti, de gratin de brocoli et de tourte aux pêches. Ensuite, nous rentrions à la maison où ma mère poursuivait mon père de pièce en pièce avec un hachoir en hurlant « Je connais ton petit manège, mon bonhomme !» comme si ces paroissiennes dévergondées s'asseyaient à côté de toi juste pour partager un livre de chant. Il ne s'arrêtait jamais, se coursait dans toute la maison, et moi je me faisais toute petite dans la penderie de l'entrée, d'où je pouvais entendre tout ce qu'il se disait sans être obligée de voir ce qui se passerait si jamais mon père perdait l'équilibre, ratait un virage, trébuchait dans l'escalier. Quand j'étais petite fille, je croyais en Dieu. Tous les matins, quand je me réveillais et que mon père était toujours en vie, je considérais ça comme un signe de son œuvre. C'est seulement en grandissant que j'ai commencé à comprendre réellement ce qui se passait le dimanche matin chez mes parents. La survie de mon père n'avait rien à voir avec la volonté de Dieu, compris-je. C'était un signe de la volonté de ma mère. Elle n'a jamais tué mon père parce qu'elle ne voulait pas qu'il meure. Non, le but de ma mère était de torturer mon père, de faire de chaque instant de sa vie un enfer. Mon père vivait parce que dans l'esprit de ma mère, la mort aurait été trop douce pour lui. « Vous avez retrouvé Mr. Smith, mon chat? Maman est partie le chercher ce matin, mais elle n'est pas encore revenue. » Didi cligna plusieurs fois des yeux. Elle venait d'ouvrir la porte en haut de l'escalier de la cave et s'était retrouvée nez à nez avec une enfant de 4 ans, toute bouclée et pleine de gravité. Manifestement, Clarissa Jones s'était réveillée et menait l'enquête. « Je vois. Oui ?» Une voix grave s'éleva. Lui se retourna docilement et Didi, levant les yeux, vit Jason Jones debout devant le vestibule qui les regardait toutes les deux. « Je veux Mr. Smith, » dit Lui d'une voix plaintive. Jason tendit la main et sa fille le rejoignit. Il n'adressa pas un mot à Didi et redisparut dans le séjour, sa fille à ses côtés. Didi et Miller lui emboîtèrent le pas et Miller congédia d'un bref signe de tête l'agent en tenue qui montait la garde. Le séjour était exigu. Un petit canapé, 2 chaises en bois, une malle couverte de napperons en dentelle qui faisait office de table basse. Dans le coin, une modeste télé posée sur un support à micro-ondes en imitation chaîne. Le reste de la pièce était occupé par une table à dessin pour enfants et une rangée de bacs contenant tout et n'importe quoi, depuis une centaine de crayons de couleur jusqu'à une vingtaine de Barbie. À en juger par ses jouets, la petite Rhee aimait le rose. Didi prit son temps. Elle inspecta la pièce, s'arrêta sur les photos à gros grains, encadrées sur la cheminée. La photo d'une nouveau-née, puis la même petite fille année après année, premier repas, premier pas, premier tricycle. Aucun autre membre de la famille sur les photos. Aucun signe évident de l'existence de grand-mère, grand-père, oncle, tante. Rien que Jason, Sandra et lui. Elle remarqua la petite photo d'une bambine qui tenait un chat orange très complaisant par la queue et supposa qu'il s'agissait du fameux Mr. Smith. Elle s'approcha des caissons de jouets, jeta un œil sur le plateau de la table et remarqua un coloriage à moitié fini, cendrillon avec 2 souris. Tout était normal, songea Didi. Des jouets normaux, des objets normaux, des meubles normaux pour une famille normale dans une maison normale de South Boston. Sauf que cette famille n'était pas normale, sinon elle-même ne serait pas là. Elle passa une nouvelle fois devant les caissons pour essayer de se faire une idée du père sans se retourner pour le regarder. La plupart des hommes seraient sans doute dans tous leurs états alors qu'il était. Une épouse introuvable, des policiers qui s'introduisaient chez lui, envahissaient le nid familial, prenaient et manipulaient les photos de famille devant sa fillette de 4 ans. Elle ne sentait chez lui aucune émotion, rien du tout. C'était presque comme s'il n'était pas dans la pièce. Elle se retourna enfin. Jason Jones était assis dans le canapé, un bras passé autour de sa fille conciliante, les yeux rivés sur l'écran de télé vide. De près, il correspondait trait pour trait à la description flatteuse qu'en avait faite Miller. Une épaisse chevelure ondulée, un début de barbe virile, des pectoraux joliment sculptés et soulignés par un simple t-shirt de coton bleu marine, à la fois sexy, paternel et mystérieux. C'était le fantasme de toute présentatrice télé et Miller avait raison. S'ils ne trouvaient pas Sandra Jones avant que la première camionnette de télévision ne les trouve, eux, ils étaient dans la merde. Didi prit une des chaises, s'installa en face du canapé et s'assit. Miller, de son côté, se fondait dans le décor. C'était mieux pour discuter avec la petite. Deux flics peuvent bousculer un mari qui traîne des pieds, mais pour une enfant inquiète, ce serait trop. Le regard de Jason Jones se reporta enfin vers Didi, s'arrêta sur son visage et, malgré elle, elle eut presque un frisson. Ses yeux étaient vides, comme des mares de nuit sans étoiles. Deux fois seulement elle avait vu un tel regard. La première fois, quand elle avait interrogé un psychopathe qui avait réglé un conflit professionnel en exécutant son associé et toute sa famille à l'arbalète. Et la deuxième, quand elle avait auditionné une Portugaise de 27 ans qui avait été détenue comme esclave sexuelle pendant 15 ans par un couple de Bostoniens fortunés dans leur somptueux immeuble de grès rouge. Cette femme était morte 2 ans plus tard. Elle s'était jetée sous les roues des voitures sur Storrow Drive. Elle n'avait pas hésité une seconde, avaient affirmé les témoins. Elle était descendue du trottoir juste devant une Toyota Highlander. « Je veux mon chat, » dit Ray. Elle s'était dressée sur le canapé et légèrement écartée de son père. Il n'essaya pas de la tirer vers lui. « Quand as-tu vu Mr. Smith pour la dernière fois ?» lui demanda Didi. « Hier soir, quand je suis allée me coucher, Mr. Smith dort toujours avec moi. C'est ma chambre qu'il préfère. » Didi sourit. « Moi aussi, j'aime bien ta chambre, avec toutes ses fleurs et ses jolis papillons. Tu as aidé à la décorer ?»« Non, je ne sais pas dessiner. C'est mon papa et ma maman qui l'ont fait. J'ai 4 ans 3 quarts, tu sais. » dit Ri en bombant le torse. « Je suis grande maintenant, alors j'ai une chambre de grande pour mes 4 ans. »«
Tu as 4 ans ?
Pas possible, j'aurais cru que tu avais 5 ans, 6 ans, facile. Qu'est-ce qu'on te donne à manger, parce que tu es immense pour tes 4 ans ?» La fillette pouffa, son père ne dit rien. « J'aime les macaronis au fromage, c'est mon plat préféré du monde. Maman veut bien que j'en mange si je prends aussi des saucisses de dinde. Il faut des protéines, elle dit. Si je prends assez de protéines, je peux avoir des Oreos pour le dessert. » « C'est ce que tu as mangé hier soir ?»«
Oui, avec une pomme. » »«
Pas d'Oreo. Papa n'avait pas eu le temps de passer au magasin. » Elle lança un regard à son père et pour la première fois, Jason Jones s'anima. Il passa une main dans les cheveux de sa fille avec un regard à la fois aimant et protecteur. Puis il se détourna et, comme si un interrupteur avait été actionné, reprit son regard de poisson mort.
« Qui t'a donné à manger hier soir, Ri ?»
« Maman me donne le dîner, papa me donne le déjeuner. J'ai des sandwichs au beurre de cacahuète et de la confiture pour le déjeuner, mais pas de gâteau. On peut pas avoir des gâteaux tout le temps, » conclut-elle avec un certain regret.
« Mr. Smith aime les Oreos ?»«
Mr. Smith aime tout, » répondit Ri en levant les yeux au ciel. « C'est pour ça qu'il est tellement gros, il mange tout le temps. Papa et maman ne veulent pas qu'on lui donne de la nourriture pour les humains, mais ça ne lui plaît pas. »
« Est-ce que Mr. Smith t'a aidé à manger ton dîner hier soir ?»
Il a essayé de grimper sur le bar, maman lui a dit « Oust !»«
Je vois. Et après le dîner, c'était l'heure du bain. »«
Mr. Smith prend des bains ?» demanda Didi, feignant l'incrédulité. Ri pouffa à nouveau.
« Non, Mr. Smith est un chat. Les chats prennent pas de bain, ils font leur toilette.
Oh, »« Je comprends mieux. Alors qui a pris un bain ?»«
Maman et moi. »«
Est-ce que ta maman garde toute l'eau chaude pour elle ? Est-ce qu'elle finit le savon ?»
« Non, mais elle veut pas que je prenne le savon. Une fois, j'ai renversé toute la bouteille dans la baignoire. T'aurais vu la mousse ?»«
Ça devait être quelque chose. »«
J'aime bien la mousse. Moi aussi. Et après le bain. En fait, on a pris une douche. Toutes mes excuses. Après votre douche, je suis allée au lit. J'ai eu le droit de choisir 2 histoires. J'aime bien les livres de Lilou Trochou et Pinkalichus. J'ai aussi le droit de choisir une chanson. Maman aime bien chanter Twinkle Twinkle Little Star. » Mais je suis trop vieille pour une berceuse, alors je lui demande de chanter Puff de Magic Dragon.
Ta maman a chanté Puff de Magic Dragon ? Didi n'eut pas besoin de feindre la surprise cette fois-ci.
J'aime bien les dragons, dit Ri.
Oui, je vois. Et Mr. Smith, qu'est-ce qu'il en a pensé ?
Mr. Smith ne chante pas.
Mais est-ce qu'il aime les chansons ?
Ri haussa les épaules. Il aime les histoires, il se couche toujours contre moi pendant les histoires.
Ensuite, ta maman éteint les lumières ?
J'ai une veilleuse. Je sais que j'ai 4 ans 3 quarts, mais j'aime bien avoir une veilleuse. Peut-être, je sais pas, peut-être que quand j'aurai 5 ans ou peut-être 30, j'aurai plus de veilleuse.
Bon, donc tu es couché, Mr. Smith est avec toi, il dort à mes pieds.
Bon, il est à tes pieds, la veilleuse brille, ta maman éteint la lampe, ferme la porte, et ensuite... Rhi regarda Didi sans mot dire. Jason Jones la regardait aussi à présent avec une légère hostilité. « Il s'est passé quelque chose pendant la nuit, Rhi ?» demanda doucement Didi. Rhi la regardait. « D'autres bruits ? Des gens qui parlaient ? Ta porte s'est ouverte ? Quand Mr. Smith est-il parti ?» Rhi secoua la tête. Elle ne regardait plus Didi. Un instant plus tard, elle se blottit à nouveau contre son père, en serrant fermement sa taille de ses bras maigres. Jason l'enlaça et regarda Didi d'un air impassible. « Ça suffit, » dit-il. « Monsieur Jones, ça suffit, » répéta-t-il. Didi prit une profonde inspiration, compta jusqu'à 10, et se demanda quel parti prendre. « Peut-être y a-t-il un membre de la famille ou un voisin qui pourrait garder Clarissa un moment, Monsieur Jones ?»« Non. » Non, il n'y a personne ou non, vous ne voulez pas? Nous occupons nous-mêmes de notre fille, capitaine, commandant Didi Warren. Il ne sourcilla pas en apprenant son grade. Nous nous occupons nous-mêmes de notre fille, commandant Warren. Aucun intérêt d'avoir un enfant si c'est pour en laisser l'éducation à d'autres. Monsieur Jones, vous comprenez certainement que pour vous aider à retrouver Mr. Smith, nous allons avoir besoin de plus d'informations et de plus de coopération de votre part. Il ne dit rien, tint sa fille contre lui. « Il va nous falloir les clés de votre voiture. » Il ne répondit rien. « Monsieur Jones, » insista Didi qui perdait patience, « plus tôt nous serons sûrs des endroits où Mr. Smith n'est pas, plus tôt nous pourrons la retrouver. Le retrouver !» dit Reed d'une voix étouffée contre le torse de son père. « Mr. Smith est un garçon. » Didi ne répondit rien, continua à observer Jason Jones. Mr. Smith n'est pas dans mon pick-up, dit tranquillement celui-ci. Comment le savez-vous? Parce qu'il avait déjà disparu quand je suis rentrée et que j'ai moi-même vérifié par précaution. Avec tout le respect que je vous dois, c'est à nous de le faire, monsieur. Mr. Smith n'est pas dans ma voiture, répéta posément Jason. Et tant que vous n'aurez pas de mandat de perquisition, il faudra me croire sur parole. Certains juges nous accorderaient ce mandat au seul motif de votre refus de coopérer. Alors j'imagine que vous serez bientôt de retour, je me trompe. Je veux jeter un œil à votre ordinateur, dit Didi. Parlez-en au même juge. Monsieur Jones, votre chat a disparu depuis 7 heures maintenant, aucun signe d'elle. De lui, dit la voix étouffée de Rhi. De lui, dans le quartier ou dans les endroits habituellement fréquentés par les chats. La situation devient préoccupante, j'aurais pensé que vous voudriez nous aider. J'aime mon chat, affirma Jones. Alors laissez-nous jeter un œil à votre ordinateur, coopérer, pour que nous puissions venir à bout de cette affaire vite et bien. Je ne peux pas. Vous ne pouvez pas, bondit Didi. Vous ne voulez pas. Je ne peux pas. Et pourquoi cela, monsieur Jones? Il la regarda. Parce que j'aime plus ma fille. Une demi-heure plus tard, Didi regagna sa voiture avec le capitaine Miller. Ils avaient relevé les empreintes de Jason et Clarissa Jones pour la bonne marche de l'enquête. Afin d'établir la présence d'empreintes étrangères dans la maison, encore fallait-il identifier les empreintes des occupants connus. Jones avait volontiers donné ses mains, puis aidé pour celle de Rhi, laquelle considérait tout cela comme une grande aventure. Jason s'était très probablement rendu compte que ce geste de bonne volonté lui coûtait très peu. Après tout, il n'y avait rien de suspect à ce qu'on retrouve ses empreintes chez lui. Jason Jones s'était lavé les mains, avait lavé celles de Rhi, puis il avait purement et simplement mis les policiers dehors. Sa fille avait besoin de repos, avait-il expliqué, et voilà tout. Il les avait raccompagnés l'un après l'autre jusqu'à la porte. Pas de « que faites-vous pour retrouver ma femme ?» Pas de « je vous en supplie, je ferai tout ce que je pourrai pour vous aider ?» Pas de « organisons une battue et interrogeons tout le quartier jusqu'à retrouver ma belle épouse adorée ?» Pas Monsieur Jones. Sa fille avait besoin d'une sieste, voilà. « Du sang-froid, » marmonna Didi. « Il est glacial, vous voulez dire. Ce monsieur n'a jamais dû entendre parler du réchauffement climatique. » Miller la laissa fulminer. « La fille, c'est quelque chose. Vous avez remarqué comme elle s'est renfermée quand on en est arrivé après l'heure du coucher ? Elle a entendu quelque chose, vu quelque chose, je ne sais pas. Mais il nous faut un officier spécialisé dans l'audition de mineurs, et vite. » Plus cette gamine passera de temps avec son cher papa, plus il lui sera difficile de se souvenir de vérités dérangeantes. Miller hocha la tête. Naturellement, il va aussi nous falloir le consentement du papa poule pour auditionner sa fille, et j'ai comme l'impression qu'il ne va pas nous le donner. Fascinant, non ? Quoi, sa femme se volatilise au milieu de la nuit en laissant sa fille seule à la maison, et loin de coopérer ou de nous poser la moindre question logique sur nos démarches pour retrouver sa femme, Jason Jones reste assis dans son canapé aussi muet qu'une carpe. Où sont la stupeur, l'incrédulité, le besoin panique d'information ? Il devrait être en train d'appeler ses amis et sa famille, de nous ressortir des photos récentes de sa femme pour notre enquête de proximité. Il devrait au minimum être en train de prendre ses dispositions pour faire garder sa fille et pouvoir nous aider personnellement, mais ce type, on dirait qu'on a éteint la lumière. Il n'est même pas là. Déni, suggéra Miller en la suivant tant bien que mal. Il va falloir employer la manière forte, conclut Didi. Obtenir un mandat de perquisition pour la voiture de Jason Jones, une commission rogatoire nous permettant de saisir l'ordinateur et de demander les relevés détaillés du portable de sa femme. Merde, on devrait probablement geler toute la maison en la considérant comme scène de crime, ça le ferait réfléchir. Cruel pour la petite. Ouais, c'est là que le bât blesse. Si la maison était déclarée scène de crime, Jason et sa fille seraient contraints de vider les lieux. Le plan, on fait sa valise et on s'installe dans un motel sous escorte policière. Didi se demanda ce que penserait la petite Ree en quittant son jardin d'Éden pour une chambre d'hôtel minable avec de la moquette marron et l'odeur fétide d'une décennie de cigarettes. L'idée ne lui donna pas trop bonne conscience, mais elle en eut une autre. Elle s'arrêta sur ses pas et se retourna assez brusquement vers Miller qu'il faillit lui rentrer dedans. « Si nous chassons Jason et Ree de la maison, il faudra les faire surveiller en permanence par des agents. Donc nous aurons moins de troupes pour rechercher Sandra Jones. » Donc notre enquête prendra du retard à un moment où il sera crucial qu'elle monte en puissance. Vous le savez, moi aussi. Mais Jason, non. Miller la regarda sans comprendre, se caressa la moustache. Le juge Banyan, dit Didi, en reprenant sa marche à bien plus vive allure. Nous pouvons préparer les commissions rogatoires maintenant et les transmettre à sa chambre juste après le déjeuner. On obtiendra des mandats pour l'ordinateur, la voiture et bon sang de bois, on fera déclarer la maison scène de crime. On va lui en faire voir, monsieur le glaçon.
Attendez, je croyais que vous veniez de dire « en espérant », l'interrompit Didi avec autorité, que quand il aura le choix entre quitter sa maison et laisser un expert habilité parler avec sa gamine, Jason Jones optera pour l'audition.
Didi consulta sa montre. Il était tout juste midi passé et à point nommé, son estomac réclama le déjeuner. Elle se remémora son fantasme du début de matinée, un buffet à volonté, et cela l'a mis de fort méchante humeur.
« Il va nous falloir des renforts pour exécuter les mandats », ajouta-t-elle.
« Bien. Et il va falloir réfléchir aux moyens d'élargir l'enquête sans encore alerter les médias. »«
Bien. »
Ils étaient arrivés à la voiture de Didi. Elle regarda Miller droit dans les yeux et poussa un profond soupir. « Ça sent mauvais, cette histoire, » dit-elle.
« Je sais, » répondit plaisamment Miller.
« Hein que vous êtes contente que je vous ai appelée,